Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine et aujourd'hui, enseigner la laïcité à l'école française. Il y a quasiment 5 ans, un professeur d'histoire-géographie était décapité en pleine rue à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine lors d'un attentat terroriste. Samuel Paty était visé en tant qu'enseignant à la suite d'un cours utilisant des caricatures. En 2023, Dominique Bernard, professeur de lettres, succombe à ses blessures par arme blanche lors de l'attentat terroriste d'Arras, alors qu'il tentait de protéger des élèves. Mais au-delà de ces drames, l'école et ses personnels sont visés par de multiples violences. Souvent au cœur des polémiques, le fait religieux, l'enseignement de la laïcité républicaine, avec des enseignants qui se sentent bien souvent seuls et mal formés pour affronter les différences culturelles et les mécompréhensions des élèves. Bonjour Delphine Girard.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, professeure agrégée de lettres classiques dans un collège du Val-de-Marne. Vous enseignez depuis près de 20 ans. Vous avez enseigné presque partout dans des zones d'éducation prioritaire. Vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République. Et vous publiez « Madame, vous n'avez pas le droit » chez Jean-Claude Lattès. Une phrase que vous entendez souvent dans votre classe.
Qu'on n'entend pas forcément souvent, mais qu'on entend de manière très symptomatique.
On sera aussi en ligne avec Marianne Valfort, qui est économiste à l'OCDE. Elle a mené une étude sur l'arbre à défis, qui est un jeu créé par l'association Enquête et qui est déployé dans différents établissements scolaires en France pour enseigner la laïcité. Delphine Girard, défendre la laïcité après le choc Samuel Paty. Samuel Paty a été décapité en pleine rue, tout près de son collège où il enseignait. Dominique Bernard, 13 octobre, à Arras, alors deux contextes différents, deux attentats terroristes qui ciblaient en tout cas clairement l'école, l'accès à la connaissance. Pour Samuel Paty, c'était à la suite de son cours dans lequel il avait montré des caricatures. Delphine Girard, comment vous avez, avec vos collègues, vécu ces événements en tant qu'enseignante à l'époque, vous enseignez d'ailleurs dans des classes très multiculturelles où vous étiez, vous aussi, en proie à des difficultés pour enseigner.
Samuel Paty, ça a été un choc épouvantable parce que on était dans un contexte où on savait que les attentats islamistes visaient notre République. On savait depuis le Bataclan combien notre vie culturelle était visée, notre mode de vie était visé. On savait avant ça, avec les attentats de Charlie Hebdo, combien notre liberté en 2015...
Et l'attentat d'Hypercacher,
combien nos concitoyens juifs étaient visés et combien notre liberté d'expression était visée. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas nécessairement tous conscience que l'école était visée. Et pour les enseignants, naturellement, ça constitue une menace supérieure, parce qu'à travers Samuel Paty, c'est pas les enseignants qui sont visés. C'est l'école en tant qu'institution. C'est le lieu où se véhiculent librement les idées, où se transmettent la liberté de penser, la liberté de s'emparer de tout type de savoirs et de cultures. Et par conséquent, en attaquant cette école comme, d'une certaine manière, la pouponnière de la démocratie, c'est notre République dans ses fondements qui était visée.
Cet effroi, vous l'avez d'autant plus mal vécu que vous êtes une enfant de la République. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Puisque vous racontez votre parcours dans votre livre.
Oui, je le revendique. Moi, je dois tout à l'école républicaine. Je fais partie, comme beaucoup de mes élèves, des enfants issus de l'immigration. Moi, je suis issue d'une double immigration vietnamienne et italienne. Et je suis la première de ma famille à avoir fait... avoir fait des études, parce que j'ai fait la rencontre d'un professeur un jour qui m'en a ouvert la potentialité qui m'a transmis ce goût de la littérature. Et je considère qu'on est dans un pays extraordinaire où on a une chance rarissime qui est de pouvoir changer de destin. Changer de destin socialement, culturellement, philosophiquement et donc confessionnellement. Et tout ça, c'est garanti parce que la laïcité nous assure une transmission universaliste du savoir qui n'est pas contingentée par les injonctions ou les croyances religieuses. Et cette liberté nous permet de changer de destin. Moi, ça a été mon cas.
C'est plus compliqué que ça quand même dans la réalité. Quand on est élève en Seine-Saint-Denis, qu'on a des profs absents en permanence, non remplacés, qu'on est dans le département le plus pauvre de France, changer son destin, il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Oui, oui, ça n'est pas impossible.
Ça n'est pas simple, mais c'est possible. Et ça ne restera possible que si l'école demeure un lieu de libre circulation des savoirs. C'est-à-dire que si l'école elle-même reste libre.
Alors aujourd'hui, la laïcité est de moins en moins bien comprise hein, dans sa spécificité française. Vous le constatez tous les jours avec vos élèves. Je voudrais vous lire des messages aussi d'auditeurs qui ont posté sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Il y a Ousmane qui est à Dakar et qui nous dit au sujet du port du voile dans les écoles françaises, est-ce que la liberté de chacun est respectée si certaines écoles interdisent le port du voile ? Alors, c'est pas certaines écoles, hein, c'est toutes les écoles.
Oui.
Depuis la loi de 2004 qui interdit tout port de signes religieux, quelle que soit la religion, dans l'enceinte de l'école. Mais d'ailleurs, vous le racontez, y compris lors de sorties scolaires.
Absolument.
À partir du moment où vous êtes avec vos élèves à l'extérieur de l'établissement, vous représentez l'autorité scolaire et donc le port de signes religieux n'est pas autorisé, donc le voile non plus.
Alors, je reconnais que la question de la liberté concernant cette loi de 2004, elle nous est souvent posée et on le comprend. Il est très difficile d'expliquer aux élèves la spécificité de la loi de 2004 puisque c'est une loi qui leur impose des restrictions auxquelles ils ne seront pas soumises plus tard à l'université ni sur le territoire national. La loi 2004, elle est spécifique en cela qu'elle traite d'enfants. Elle traite d'élèves dont on considère qu'ils n'ont pas encore acquis la maturité suffisante pour être absolument libres de leur choix et dont on considère que le libre arbitre n'est pas encore formé. Donc, elle, d'une certaine manière, cette loi effectivement protègent leur liberté en devenir, de s'autodéterminer en conscience lorsqu'ils en auront acquis la capacité et la maturité. Et pour protéger cette liberté individuelle à venir, on a besoin de prémunir leur esprit dans sa période de maturation des influences religieuses et du prosélytisme religieux. Et c'est en cela que la loi 2004, elle a l'air liberticide, mais en réalité, c'est le contraire, elle protège l'esprit en formation de nos élèves.
Vous restez avec nous, bien sûr, vous pouvez continuer à poster des messages au 33 7 64 45 51 41. Delphine Girard, on va accueillir une économiste de l'OCDE dans quelques instants pour parler très concrètement d'un projet qui vise à enseigner la laïcité avec un cadre des formations pour les enseignants.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Marianne Valfort, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes économiste à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous avez mené une étude sur l'arbre à défi, qui est un jeu créé par l'association Enquête et qui est actuellement déployé dans des établissements scolaires en France. Vous avez fait une étude comparative dans 3 académies d'Île-de-France. Ce projet, il comprend 12 séances d'une heure avec des élèves dans un cadre bien précis à travers un jeu. Il y a un aspect ludique. Qu'est-ce que vous avez constaté pour ceux qui rentrent dans le cadre de cette expérimentation ?
D'abord, donc l'idée, hein, c'était donc on a réalisé cette étude auprès d'une centaine d'enseignants de CM1 et de CM2 issus d'écoles, comme vous l'avez dit, de la région parisienne, dont quasiment la moitié était localisée en REP REP plus.
L'objectif donc c'était réseau d'éducation prioritaire.
Ouais. Et donc l'objectif c'était de tester l'efficacité de cet outil pédagogique, l'arbre à défi, sachant que le but de cet outil, c'est d'aider les enseignants à mettre concrètement en œuvre l'enseignement des faits religieux et de la laïcité qui figure dans les programmes scolaires dès l'école primaire. Et pour atteindre cet objectif, ça c'est très important, cette pédagogie s'appuie durant toute la durée du jeu, c'est-à-dire durant les 12 séances hebdomadaires, à raison d'une heure par semaine. Sur toute la durée du jeu, la pédagogie s'appuie sur l'apprentissage de la distinction entre savoir et croire. Et cette distinction, elle est vraiment très importante pour que les élèves s'approprient la notion de laïcité. parce que c'est une distinction qui va les aider à développer leur esprit critique et à comprendre que leurs croyances, précisément parce qu'elles ne relèvent pas du savoir, et bien que leurs croyances, elles sont ni moins ni plus légitimes que celles des autres. Et donc, c'est un cheminement qui est propice à un rapport beaucoup plus serein aux convictions, qu'il s'agisse de leurs propres convictions ou de celles des autres.
Qu'est-ce que vous avez constaté entre les enseignants qui abordaient la question de l'enseignement du fait religieux, de la laïcité, tel que prévu dans le programme, et ceux qui rentrer dans l'arbre à défi, dans ce projet bien spécifique, à travers un jeu. À l'arrivée, qu'est-ce qu'il y avait comme différence?
En fait, les enseignants qui ont été formés à l'outil l'arbre à défi ont pu mettre en place dans leur totalité les 12 séances hebdomadaires, et ils l'ont fait en fait avec une énorme confiance. Parce que cette formation, la formation à cette pédagogie leur a permis de surmonter tout un ensemble de peurs. En l'absence de formation, ce que nous disent les enseignants, c'est qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité à enseigner les faits religieux et la laïcité, parce que ces sujets sont sensibles et ils sont propices aux polémiques. Et cette peur s'est bien sûr accrue suite aux assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Les enseignants insistent sur le fait que grâce à l'arbre à défi, ils ont pu aborder avec leurs élèves des sujets qu'ils n'auraient jamais osé traiter sans cet outil, comme par exemple expliquer que chaque individu est libre d'interpréter les textes religieux et de pratiquer sa religion à sa manière, et donc qu'on peut être chrétien sans aller à la messe ou les dimanches, qu'on peut être musulman sans manger halal, ou juif sans manger kasher. Donc ça, c'est un premier aspect extrêmement positif de l'impact de l'arbre à défi, qui est une très forte appropriation de l'outil par les enseignants.